Je vais répondre d'abord aux questions. Je pense que vous... Première question qui reprend ce que vous avez dit ce matin pendant la conférence. Comment montrer, essayer de montrer la création de l'âme par Dieu au plan philosophique ?
Ça, c'est une très grosse question. Je veux bien essayer d'entrer dedans, mais c'est une très grande question. Parce qu'au fond, c'est toute la démarche de la métaphysique. Je ne peux pas vous faire en un coup toute la métaphysique. Je peux simplement situer, si vous voulez. Et c'est une très grande question, c'est une question, je crois, très importante. Essayer de découvrir ce que représente l'immortalité de l'âme. Et découvrir comment cette âme immortelle est nécessairement créée par Dieu. Et que l'âme immortelle ne peut pas venir de nos parents, mais est nécessairement créée par Dieu. Alors, toute la question, c'est de comprendre d'abord, premier point de vue, ce que je vous avais dit déjà hier, comprendre qu'il y a en nous une âme spirituelle. Que l'esprit existe. Ça, c'est toute la réflexion sur le point de vue de la connaissance et la connaissance universelle. Donc, l'existence des sciences. Les sciences existent, montrent que de fait, il y a en nous une capacité de connaissance, parce que nous avons une connaissance sensible, une connaissance imaginative, une capacité de connaissance qui est au-delà du domaine biologique. Au-delà du domaine biologique, non pas dans son exercice, puisque l'exercice de nos connaissances, c'est toujours nous-mêmes, l'être humain impliquant le corps et l'âme, c'est l'être humain dans son unité. Et donc, toujours quand je pense, même quand je pense les choses les plus profondes au point de vue métaphysique, au plan spirituel, il y a toujours le support de l'imagination. Toujours. Et même dans les grâces les plus intérieures au point de vue mystique, il y a toujours le support de l'imagination. Mais évidemment, l'imagination ne détermine pas, mais conditionne. Quand je parle d'exercice, c'est conditionnement d'exercice. Mais le contenu va au-delà de l'image. L'image, c'est de l'ordre de la représentation, et la connaissance intellectuelle est de l'ordre de la signification. Je crois qu'il faut bien saisir ça. C'est déjà beaucoup. Quand vous avez compris ça, vous comprenez que l'esprit, la connaissance, la capacité de connaître, est au-delà du domaine de l'imagination. Il y a un problème de la signification qui est au-delà. Et puis, il faut aller encore un peu plus loin. Et comprendre que, puisque l'intelligence humaine est capable de découvrir qu'il existe nécessairement un être premier, acte pur, que nous appelons Dieu, l'intelligence est capable d'atteindre, pas directement, je n'ai pas philosophiquement parlant, d'expérience de Dieu. Si j'avais une expérience de Dieu au point de vue philosophique, j'aurais l'évidence de l'existence de Dieu. Je dirais Dieu nécessairement existe. Et donc, ceux qui nient l'existence de Dieu, je dirais carrément, ce sont des imbéciles. Vous voyez, parce qu'ils n'ont qu'à faire appel à une évidence. Et donc, ils sont de mauvaise foi. Parce que quand j'ai l'expérience, quand même, je ne peux pas nier. Je peux évidemment douter, m'adapter, discuter. Est-ce que cette femme existe? Est-ce que j'existe en face de vous? Si vous disiez non, vous n'existez pas. Vous n'existez pas. C'est un petit peu malade, c'est quelque chose qui va pas quand même. Normalement, quand vous allez au marché et que vous achetez des choux, vous ne dites pas à la personne qui vous vend les choux, est-ce que ce chou existe? Quand vous sortez d'un cours de philosophie, vous posez cette question. Parce que normalement, je ne me pose pas la question. L'existence des réalités, je les vois. Eh bien, Dieu je n'ai pas cette évidence immédiate. Je n'ai pas cette évidence immédiate. Parce que je n'ai pas l'expérience au plan philosophique de Dieu. Vous voyez, c'est la différence avec la connaissance de foi et la connaissance philosophique. Dans la connaissance de foi, il y a une connaissance immédiate. Il y a une adhésion immédiate à l'existence de Dieu. Dieu me parle. Pour le croyant, Dieu parle à celui qui l'écoute. Dit Samuel, vous savez bien, en voie de l'Écriture, quand il entend dans la nuit, Samuel, Samuel. Alors il se précipite auprès du grand prêtre, parce que Dieu, dans sa bonté, avait pris l'intonation de la voix du grand prêtre. Alors il se précipite auprès du grand prêtre. Mais en fait, vous ne pouvez pas le retourne dormir. Seconde fois, Samuel, Samuel. Il retourne une seconde fois, alors le grand prêtre est inquiet. Si ça revient une troisième fois, il dit, Seigneur, ton serviteur t'écoute. Et le discernement entre ce qui vient des hommes et ce qui vient de Dieu. Et c'est ça la foi. La foi fait ce discernement entre la parole de Dieu et la parole des hommes. Il y a quelque chose que la foi discerne. Une foi vivante, elle discerne cela. Et dans l'adhésion de foi, j'adhère directement à Dieu. Donc, au niveau de la foi, je ne mets pas en cause l'existence de Dieu. Tandis qu'au plan philosophique, puisque je n'ai pas l'évidence immédiate de Dieu, je peux me poser la question, est-ce que Dieu existe? Et le philosophe doit se poser la question. C'est une nécessité de se poser la question. Il n'a pas le droit, a priori, de dire Dieu existe. Il y a les traditions religieuses. Ou il n'a pas le droit, a priori, de dire Dieu n'existe pas. Donc, il doit se poser la question. Et c'est la grande question, d'un point de vue philosophique. Voilà. Toute la métaphysique aboutit à cette question. Est-ce que la personne humaine, qui est l'expérience la plus forte que j'ai parmi toutes les réalités, c'est l'homme qui est évidemment la réalité la plus parfaite. C'est facile à comprendre. Vous n'avez qu'à vous regarder et vous dites, je suis la réalité la plus parfaite. C'est facile à comprendre. Donc, c'est vrai que je suis plus parfait qu'une vache. Moi, vous ayez été hésité de retourner dans la vache. Normalement, si vous avez un tout petit peu le sens de ce que c'est que votre âme spirituelle et l'amour que vous avez pour vous, vous n'avez pas le désir de retourner dans la vache. Quand vous regardez le saint, mais c'est pas aussi gracieux qu'un homme, donc c'est quand même autre chose. Non? Donc, au fond, la réalité la plus parfaite que vous expérimentez, c'est vous, ou c'est votre ami. Parce que normalement, l'ami, c'est celui qu'on aime plus que soi-même et qu'on considère plus grand que soi. Et donc, c'est la plus grande expérience que j'ai, c'est d'aimer quelqu'un et de considérer que c'est mon ami, c'est mon bien. Et j'ai l'expérience d'une personne humaine à ce moment-là. Nous verrons ce problème-là, c'est très important. Et alors je me pose la question, est-ce qu'il y a une réalité qui est supérieure à moi-même? Est-ce qu'il y a une réalité qui est supérieure à moi-même? Alors, c'est tout ce qu'on appelle cela le grand problème de la théologie naturelle, et depuis la limite, on a dit la théodicée. Ça, c'est un très gros problème, hein. C'est un problème très important. Il ne faut pas dire, ah, ça n'a rien à voir avec la philosophie. J'avais un de mes amis, Cito Laguerre, il est mort maintenant, Cito Laguerre qui faisait des cours en Sorbonne et qui avait intitulé son cours, il avait eu cette culot, c'était revenu de captivité, alors, ceux qui revenaient de captivité, ils devaient dire n'importe quoi. Alors, il avait intitulé Le problème de Dieu en philosophie, en Sorbonne. Alors vous comprenez qu'il a eu tout de suite, immédiatement, devant lui, toute une série d'étudiants marxistes qui ont dit « Vous n'avez pas le droit de faire un cours là-dessus. » Alors très bien, il a encaissé ça. Puis le cours suivant, il a dit « Je dois vous enseigner, en tant que philosophe, l'histoire de la philosophie. » Alors, tous les philosophes grecs ont parlé de Dieu. Descartes ont parlé de Dieu. Si vous ne savez pas ce que c'est que Dieu, vous ne pouvez rien comprendre à Descartes, vous ne pouvez rien comprendre à toute la philosophie grecque. Donc, il est normal que le philosophe se pose la question, qu'est-ce que c'est que Dieu pour le philosophe? Parce que le philosophe doit être respectueux des traditions religieuses. S'il les rejette, a priori, il n'est plus philosophe. Un philosophe n'a pas le droit d'avoir d'a priori. Il faut mettre les gens en boîte, vous savez, très très vite. Quand vous voyez quelqu'un qui, automatiquement, c'est, vous avez des a priori. Il y a des gens plus intelligents que vous qui ont plus religieux. Alors vous avez un a priori, vous dites Dieu n'existe pas. C'est un a priori. Prouvez-moi que Dieu n'existe pas. Personne ne peut prouver que Dieu n'existe pas. C'est pas ça, vous êtes toujours sur votre position. C'est pas pour moi de prouver que l'existence de Dieu. Ça, c'est très très. Mais c'est impossible de prouver que Dieu n'existe pas. C'est toujours par des sophismes. On ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas. Alors, c'est très fort comme position, vous voyez. Il ne faut pas hésiter, vous savez, quand on est en face de Marxiste, il faut leur dire carrément, prouvez-moi que Dieu n'existe pas. Alors ils font de gros sophismes, le sophisme de celui qui est ivre. Ce sont des sophismes acalyptiques. Le sophisme de celui qui est ivre. Celui qui est ivre, il dit, il n'est pas bon pour. Je dois chercher mon bien. Or, je sais très bien que le vin pris en trop grande abondance n'est pas bon pour moi. Oh, cette bouteille est merveilleuse, dont je l'adore. À chaque service, c'est constamment comme ça dans les articles des journaux. Il y a toujours des articles, c'est très curieux quand on connaît. C'est très intéressant, quoi, le syllogisme de l'ivrogne. Le syllogisme de l'ivrogne, c'est toujours à quatre pieds. Le vrai syllogisme, il y en a trois. Très bien. Moi, tandis que le syllogisme de l'ivrogne, il y en a quatre. Je sais qu'il faut faire le bien. Or, le vin pris en trop grande quantité n'est pas bon pour moi, j'en ai déjà pris assez. Ah, mais cette bouteille là, tombe le bois. Vous avez oublié complètement. C'est ça, c'est oublié complètement. Et c'est très curieux quand ceux qui veulent nier l'existence de Dieu, ils font toujours un syllogisme comme ça. C'est extraordinaire. Oui, le fameux syllogisme de Nietzsche. Extraordinaire, Nietzsche. Enfin, il n'était pas bête. Hein. Et Nietzsche était un des esprits très très pertinents. Nietzsche dit, si Dieu existe, il est le créateur. Or, je suis créateur, donc Dieu existe. C'est extraordinaire d'arriver à dire ça. Il le dit textuellement comme ça. Parce qu'il dit, si Dieu existe, il est le créateur. Or, je suis un créateur, donc Dieu n'existe pas. Vous voyez ? L'affirmation, l'opposition qu'on met, on peut être créateur, et Dieu peut être créateur d'une autre manière. Il y a deux manières d'être créateur. Dieu est créateur de l'être, et Nietzsche était créateur de nouvelles formes. C'est pas la même chose. Dieu a peut-être voulu créer des créateurs. Ça, Nietzsche, j'ai pas posé la question. Vous voyez, c'est tout le temps comme ça. Alors, on ne peut pas démontrer la non-existence de Dieu. On ne peut pas. C'est impossible. C'est absolument impossible. Ça, il faut essayer tout simplement. C'est intéressant à regarder. C'est intéressant à regarder toutes les démonstrations qui ont été données contre la non-existence de Dieu. Et voir que toujours il y a un problème. Le métaphysicien doit essayer de découvrir comment je puis dévoiler l'existence de Dieu. Je dévoile qu'il existe nécessairement une réalité première. Autrement dit, l'homme n'est pas premier. C'est très facile à comprendre. Hein. Si l'homme était premier, il serait unique. Or, il y a au moins mon ami et moi. Nous sommes deux. Si nous sommes deux, nous ne sommes pas premiers. Et ça, toute la philosophie le dit. La diade n'est pas première. Il faut donc qu'il y ait nécessairement quelque chose qui est premier. C'est une simplicité du reste. C'est très très simple. C'est pas commode, hein, après coup. Mais il faut nécessairement qu'il y ait un être premier. Alors vous direz, ah, mais cet être premier n'est pas nécessairement le créateur. Alors il faudra montrer que cet être premier qui est au-dessus de l'homme ne peut être que le créateur. S'il est vraiment premier. Parce que s'il est vraiment premier, il est absolument parfait. Et il est en même temps absolument saint. L'apanage du premier, c'est d'être saint. Et c'est en même temps d'être parfait. Il ne peut dépendre d'aucun autre s'il est premier. Alors, vous arrivez à démontrer l'existence d'un être premier. Une fois que vous avez démontré l'existence d'un être premier, vous montrez que cet être premier, c'est le créateur. C'est-à-dire que tout dépend de lui, parce qu'il est premier. et l'une dépend de l'autre. Et alors, puisque vous êtes capable de découvrir l'existence d'un être premier qui est votre créateur, à partir de là, vous pouvez comprendre qu'il y a dans votre âme quelque chose qui est en comme naturalité avec votre premier. Autrement, je ne peux pas le comprendre. Et à partir de là, je peux démontrer qu'il y a dans l'âme quelque chose de spirituel et d'immortel. Et une fois que je démontre que l'âme est immortelle, l'âme nécessairement ne peut venir que de Dieu. Donc vous voyez, ça c'est les différents moments. Je ne vous montrerai pas plus, je ne peux pas faire plus.
Petite question qui revient sur le problème, la question de l'intentionnalité par rapport à Dieu. En Dieu, il n'y a pas d'intentionnalité.
Parce qu'il est l'être premier, l'intentionnalité est second.
Or, il y a le projet de la création. Que représente ce projet en Dieu?
Ça, c'est la grosse question. C'est ce que les théologiens disent, qu'il y a en Dieu des possibles. Hein. Il y a en Dieu des possibles. Dieu m'a à penser. Vous savez, il est dit ça dans la Genèse. Hein. Faisons l'homme à notre création et à notre ressemblance. Faisons l'homme. Donc, Dieu a réfléchi sur la possibilité qu'il y avait de créer un chef-d'œuvre qui est l'homme et la femme. Alors, comprenons bien. C'est mon intelligence humaine qui essaie de comprendre comment en Dieu il y a un acte créateur. Et que l'acte créateur de Dieu ne peut être qu'absolument libre. Dieu ne peut pas créer par nécessité. Si Dieu créait par nécessité, il ne serait pas Dieu. Parce que ça voudrait dire que Dieu a besoin d'une réalité autre que lui. Et si Dieu a besoin d'une réalité autre que lui, ça prouve que Dieu est imparfait. Or, s'il est imparfait, il n'est pas Dieu. Il ne répond pas à la signification du mot Dieu tel que nous le donnent les traditions religieuses. Je vous ai déjà dit, et je le redis maintenant parce que ça c'est très important, le mot Dieu n'est pas un mot que les philosophes ont inventé. C'est un mot qui existe dans les traditions religieuses, ou qui existe dans la révélation. Or, selon toutes les traditions religieuses, le mot Dieu, c'est l'être premier, l'être souverain, l'être créateur, qui ne dépend de rien et dont tout le reste dépend. Voilà, dans toutes les traditions religieuses, vous voyez ça. C'est plus ou moins bien dit. Mais au fond, c'est toujours la même idée. C'est que Dieu est premier. Et Zeus, le Dieu des dieux. Quand on dit le Dieu des dieux, on peut comprendre qu'il y a des dieux inférieurs qui ne sont pas véritablement dieux. C'est Dieu tout-puissant. Donc, si Dieu crée par nécessité, il n'est plus Dieu. Dieu ne peut créer donc que librement, par surabondance d'amour. Non, ce ne serait plus un acte créateur de la part de Dieu. Cet acte de surabondance d'amour provient de sa contemplation. C'est donc un acte qui provient de sa sagesse. La création provient de la sagesse de Dieu et de l'amour de Dieu. Donc il provient de la surabondance de son amour, c'est un acte absolument libre, et un acte absolument lumineux. Ça peut être extraordinaire. La création du côté de Dieu se fait dans la lumière. Tandis que nous, quand nous travaillons, ça ne se fait pas dans la lumière. Après l'heure du travail, vous savez bien, c'est pas très lumineux, le boulot qu'on peut faire. C'est évident, c'est pas très lumineux. Parce que le travail, c'est justement modifier la matière. Prendre des grosses pierres, les transporter à droite, puis après les transporter à gauche, puis les transporter encore d'autre part, c'est pas lumineux. C'est ce que vous disiez une fois, c'était quelqu'un qui inspectait les autoroutes allemandes, il disait c'est très curieux. Une fois, je suis resté toute la journée pour regarder les camions qui allaient, je ne sais plus, c'était de Munich à Salzbourg, de Salzbourg. Je me disais, il devait y avoir uniquement des meubles qui allaient par exemple de Munich à Salzbourg, et puis d'autres. Puis ce qui est très curieux, c'est que je vois, il y a des camions qui transportent des meubles de Munich à Salzbourg et de Salzbourg à Munich. C'est pour le plaisir de voyager qu'ils font ça. Le travail n'est jamais lumineux. travail se réalise toujours dans la lumière. Il n'est jamais lumineux. Il n'y a que l'acte créateur de Dieu qui est lumineux. Ça, c'est le travail de Dieu. C'est un travail contemplatif. Il se fait dans la lumière. S'il se fait dans la lumière, il se fait donc dans l'intelligence de Dieu qui a pensé tous les possibles. Ah, qui a pensé tous les possibles. Alors, vous allez dire, les possibles en Dieu, c'est donc l'attentionnalité. Attention. Vous voyez bien comment on arrive à ça. Dieu a pensé, Dieu a réalisé tous les possibles de Dieu. Vous pouvez réaliser un autre monde, vous pouvez réaliser un monde meilleur que celui qu'il a fait. Je suis obligé de dire ça, si je veux respecter la majesté souveraine du Créateur. Dieu aurait pu faire un monde meilleur. On dira, c'est facile à comprendre. Hein. Mais il a compris. Il aurait pu faire un monde meilleur que ce qu'il a fait. Donc, il a choisi parmi des possibles. Si je parle de possible, je parle donc d'intentionnalité. Alors, comprenons. Le théologien, quand il parle des possibles en Dieu, sait très bien que c'est une manière pour lui d'exprimer ce qu'il ne peut pas exprimer autrement. Mais les possibles en Dieu, c'est Dieu lui-même. Et donc, ce n'est pas du tout de l'intentionnalité. Parce qu'en Dieu, il ne peut pas y avoir quelque chose de second. Il ne peut pas y avoir des accidents en Dieu. Il ne peut pas y avoir quelque chose qui s'ajoute à Dieu. Dire qu'il s'ajoute quelque chose à Dieu, ce serait de dire que Dieu n'est pas acte pur. Donc Dieu est acte pur dans son être. Il est la limpidité absolue. Rien ne peut s'ajouter à Dieu. Je n'ajoute rien à Dieu. La créature n'ajoute rien à Dieu. Ça qui est extraordinaire. Parce que Dieu est infini dans sa lumière. Et donc la créature n'ajoute absolument rien à Dieu. Donc quand je parle des possibles de Dieu, c'est une manière de signifier l'acte créateur de Dieu. Et je sais très bien que ces possibles ne viennent pas s'ajouter à l'être de Dieu et à la contemplation de Dieu. Donc il n'y a pas d'intentionnalité en Dieu. Parce que l'intentionnalité, par définition, c'est quelque chose de second. Or, en Dieu, tout est simple et tout est premier. Et c'est très beau, parce que ça fait comprendre la jeunesse de Dieu. La jeunesse. En moi, il y a toujours des choses secondes. Il n'y a pas de rire dans Dieu. C'est magnifique. Dieu a cette spontanéité unique et éternelle. Un jaillissement éternel dans nous. Tandis qu'en moi, il y a des reprises. Parce que justement, il y a de l'intentionnalité. Alors, il y a des reprises. Ce premier plan que j'avais, cette première intention que j'avais, elle ne peut pas se réaliser parce qu'il y a eu un accident. Alors, on est obligé de refaire une autre intention. Les intentions se modifient. Ça parce que, je ne suis pas absolument simple. Si j'étais absolument simple, rien ne pourrait se reprendre. Tout serait nécessaire. En Dieu, tout est nécessaire. Mais tout est nécessaire d'une nécessité qui est un jaillissement d'amour. Vous voyez, c'est ça qui est très particulier. Et l'acte créateur de Dieu est absolument libre.
Encore une question ? Non. C'est une question théologique. Vous avez dit hier soir que Jésus avait progressé en sagesse jusqu'à la croix, au niveau expérimental et non pas au niveau de sa grâce.
Je vais peut-être en dire un mot ce soir, ça. Parce que c'est de l'ordre purement théologique et spirituel qui a peut-être mieux. Rappelez-le-moi ce soir. C'est pour avancer au point de vue philosophique.
Dernière question. Pouvez-vous expliciter un peu le mystère de l'Immaculée Conception ? Comment, par ce mystère, peut-on montrer que Marie a une âme spirituelle dès le premier instant ?
Ça aussi, je vais demander ce soir. Important ça. Ah, cette seconde question, peut-être apprendre tout de suite si vous voulez. Parce que c'est vraiment ça. Il ne faut pas trop. Il faut quand même garder le soir un peu l'aspect mystique, spirituel. Hein. Alors, je réfléchis. Donc, comment pouvons-nous dire ?
Comment, par le mystère de l'Immaculée Conception, peut-on montrer que Marie a une âme spirituelle dès le premier instant ?
Qu'est-ce que c'est que. C'est un mystère, c'est un dogme, c'est pas un mystère de l'Immaculée Conception. Donc, on dit que Marie, dès le premier instant de sa conception, est immaculée. Et on ajoute immédiatement, avec Arthur de la Bulle, il est fabulis, dans laquelle on donne, proclame le mystère de l'Immaculée Conception, on dit en même temps que Marie a une plénitude de grâce. Ça fait partie du mystère de l'Immaculée Conception. Elle est enveloppée d'une miséricorde prévenance telle qu'elle est enveloppée du soleil. Le grand texte de l'Apocalypse. La femme enveloppée du soleil. Bon, alors, on veut montrer qu'elle est immaculée. La tâche du péché n'a pas touché son âme. Le péché, il est dans l'âme. Donc, il n'est pas dans le corps. Donc, si elle n'a pas de tâche, il faut donc nécessairement qu'il y ait la possibilité de quelque chose qui puisse être immaculé. Elle est immaculée. Si on dit qu'en même temps, il y a une plénitude de grâce, la grâce est reçue dans l'âme. Donc, si il y a une plénitude de grâce, il faut donc la sujet. Il faut donc que l'âme soit présente. L'Immaculée Conception ne peut se comprendre que par rapport à l'âme spirituelle, parce qu'il s'agit de la grâce, et la grâce est reçue dans l'âme. Donc si je parle de l'Immaculée Conception, qu'elle est immaculée dès le premier instant de sa conception, il faut nécessairement qu'il y ait l'âme dès le premier moment de sa conception. C'est impliqué dedans, c'est une implication, si vous voulez. Le dogme de l'Immaculée Conception implique que Marie et cette âme propre à Marie dès le premier moment de sa conception. Et comme Marie est de notre race, je peux à partir de là déduire que nous-mêmes, dès le premier instant de notre conception, notre âme a été créée par nous. Parce que nous sommes de la même race. Marie est de notre race. Nous sommes de la descendance de la femme. Oui. Je crois que c'est très fort. Ça a été très peu exploité, ça, au point de vue théologique. Et moi, je l'ai vu nulle part. Je l'ai prêché très souvent, parce que c'est une des choses qui me semble très belle. Je me souviens, en Suisse, à Sion, il y a régulièrement des veillées pour prier, toujours le 8 septembre, le 8 décembre, toujours des veillées pour prier, pour supplier le Seigneur de faire que le fait il n'y ait pas de loi, parce qu'il y a beaucoup de lois pour l'avortement. Alors on dit à cela, c'est par la prédication, c'est presque toujours comme ça, les lumières nous viennent dans la prédication. Je demandais au Seigneur d'éclairer comment donner à des bons chrétiens la grande lumière pour nous faire comprendre que dès le premier instant, l'âme est créée. Eh bien, ça, c'est le mystère de l'Église. Et si vous y réfléchissez, il faut y réfléchir, il faut méditer un peu. Hein? Parce que d'un seul coup, il y a un moment, je ne vois pas, je n'ai jamais pensé. Oui, vous avez jamais pensé. Ce n'est pas parce que vous n'y avez jamais pensé, c'est pas vrai. Ça n'a pas arrivé, ça n'a pas arrivé. Ne soyez pas comme l'Éternel. Hein? Il faut accepter qu'il y a des choses qu'on n'a jamais pensées et qu'on s'en soit tout d'un coup. La grâce de Dieu qui nous donne. Mais c'est vrai, premier instant, vous m'avez donné mon Seigneur. Et Père Kolb avait cette intuition très forte. Père Kolb disait que le mystère de l'Immaculée Conception renouvelait toute la théologie. Je crois que ça va très loin, ça. On n'a pas beaucoup pris cette intuition du Père Kolb, mais je crois que c'est très très vrai. C'est que le mystère de l'Immaculée Conception renouvelle toute la théologie, permet de tout reprendre dans une nouvelle lumière. Alors lui, il allait très loin. Il allait très loin. La manière du Père Kolb est un franciscain, ont le privilège sur les dominicains de pouvoir dire des choses qui quelquefois on n'arrive pas toujours à les montrer, mais c'est l'amour. Alors l'amour va plus vite que la lumière. Alors Pacob disait des choses assez étonnantes. C'est très très beau, j'aime beaucoup. Pacob sur l'Immaculée Conception, il dit des choses merveilleuses. Je crois qu'on n'a pas dit, on a rarement dit des choses aussi belles que Pacob sur l'Immaculée Conception. Entre autres, la dernière chose qu'il a écrite avant le traité. C'est la dernière partie qu'on a trouvée sur ce travail. Après, il a été arrêté, il est parti au camp de Suisse. On ne sait pas comment ça s'est terminé. Dans l'amour. Alors, c'est un peu, les dernières paroles ont été comme signées du sang du martyr. C'est beau, ce qui est là. Bon, alors, c'est suffisant. Je vais mettre. maintenant continuer, si vous voulez, parce que je voudrais quand même avec vous arriver ce soir d'abord à... Il n'y a plus d'autres questions ? Alors, je reprends la question de ce que nous avions vu ce matin. Le premier amour fondamental qui est dans nous, c'est l'appétit instinctif. Deux appétits instinctifs, l'appétit à l'égard de l'aliment et l'appétit à l'égard de la procréation. Alors, l'instinct, comme on dit aujourd'hui, l'instinct par rapport à l'aliment et l'instinct sexuel. Il faut donc bien comprendre ces deux instincts. Deux appétits, ce sont deux forces instinctives qui sont en nous. Deux forces instinctives. L'une individuelle, l'autre au nom de l'espèce. Je crois ça très important. Deuxièmement, il y a en nous des appétits sensibles. Alors, vous comprenez bien, je distingue, je ne sépare pas. Nos appétits instinctifs sont enveloppés des appétits sensibles, c'est bien évident. C'est monstrueux, c'est pareil. Quand j'ai faim, oui, il y a un appétit sensible, une passion qui vient. C'est évident. C'est la même chose pour l'instinct sexuel. Il y a l'aspect des passions qui enveloppent l'instinct. Il faut bien discerner les deux. C'est très important de voir que l'un est au niveau de l'appétit naturel, instinctif, qui n'exige pas de connaissance. Simplement un besoin, pour dire aujourd'hui. C'est un appel instinctif. C'est plus fort que moi. Certains, quand on dit l'instinct, c'est plus fort que moi. Attention, c'est plus fort que vous, parce que vous êtes faible. Alors c'est pour ça que c'est plus fort que vous. Mais je sais jamais plus fort que vous. C'est faux de dire c'est plus fort que vous. C'est parce que vous avez abdiqué des points de départ. Et vous avez oublié que l'homme est fait pour quand même dominer ses instincts. Il n'est pas fait pour autre chose. Cette petite parole d'Aristote qui est très très jolie. Il faut mettre ça en face de Freud. Aristote, Freud. Ce sont les deux philosophes qui ont parlé des rêves. Donc il y a une petite analogie entre les deux. Alors, Aristote dit tout simplement, tout ce qui dans l'homme est commun avec l'animal n'est pas proprement humain. Il faut de temps en temps réfléchir sur cette petite phrase. Elle est très très forte. Elle va très loin. Elle va très loin. Tout ce qui est commun entre l'animal et l'homme n'est pas proprement humain. Or, l'instinct est commun entre l'animal et l'homme. Les passions, c'est commun entre l'animal et l'homme. L'instinct peut devenir humain et l'instinct peut être inhumain. Les passions peuvent devenir humaines et les passions peuvent être inhumaines. Parce qu'elles sont communes entre l'homme et l'animal. Dieu a voulu que ce soit comme ça. J'ai quand même quelque chose de commun avec le chien qui aboie. La colère, hein. C'est évident, je me reconnais. Je me reconnais dans les ruses particulières du chat. Je me reconnais là-dedans. Il y en a qui sont plus proches du chat, d'autres qui sont plus proches du chien, et d'autres plus proches du cheval, et d'autres de l'hippopotame. Ça dépend, vous avez vu. C'est le cheval encore une fois retardé, c'est le cheval de l'eau, n'est-ce pas ? Alors, comprenons bien, c'est pour ça que c'est si important d'essayer de détecter, d'analyser, c'est une analyse que nous faisons ici, une analyse philosophique de ce que représente notre psychisme humain. Notre psychisme humain, c'est les liens entre la passion et l'imaginaire. Alors ça peut prendre des tournures invraisemblables. Et alors le soubassement de la passion, c'est l'instinct. C'est pour ça qu'il y a toujours des alliances entre les passions et les instincts. Ça c'est bien évident. Il y a toujours des alliances. Mais les passions vont plus loin que l'instinct. Les instincts sont enveloppés de la nuée passionnelle. Passion, c'est une nuée passionnelle. Mais les instincts sont enveloppés de cette nuée passionnelle. Et de fait, l'exercice des instincts pour l'homme se fait toujours à travers les passions. Toujours. d'ordre où il peut y avoir des instincts qui se développent indépendamment des passions. C'est très curieux. Autrement, entre les éveillés, les passions sont toujours éveillées. Ça fait des passions, elles s'éveillent vite. Elles s'éveillent avant l'intelligence, quelquefois. C'est sûr. Gosse, tout de suite, on voit tout de suite le tempérament d'un gosse. On voit tout de suite les passions d'un gosse. C'est très très beau de voir ça. Parce que chez lui, c'est pas gênant. Chez les grandes personnes, c'est plus gênant. Mais chez le gosse, c'est pas gênant de voir les passions à l'état pur. C'est même beau de voir ça. On voit la rage d'un gosse, la colère d'un gosse. C'est très très beau. Heureusement qu'il y a des petites colères. Parce que comme ça, il fortifie son iracisme. Supprimer toujours les colères du gosse, c'est l'empêcher d'être fort. Parce que l'iracisme, c'est le fondement de notre force. Parce que ça regarde le bien arriver. Déjà, le vieux philosophe disait ça. Il ne faut pas supprimer toutes les colères d'un enfant. Parce que les colères d'un enfant, il ne faut pas exagérer. Hein, attention, ne provoquez pas exprès des colères. Ce n'est pas la peine. Hein, ça arrive toujours. Alors, les colères d'un gosse, c'est bon. C'est bon. Ça fortifie son iracisme. Si vous voulez supprimer toutes les colères d'un enfant en disant « Ah, il ne faut surtout pas, parce que les colères, ça va provoquer des complexes. » Eh bien, vous affaiblissez le gosse. Vous lui enlevez sa force de résistance. Vous en faites des mous. Donc, ils n'ont plus de vertèbres. Ah, les vertèbres, c'est les racines. Qui nous permettent de tenir debout. Quand on n'a pas des racines, vous savez bien, on est abandonné. Hein. L'abandon psychologique, hein. Ça prend, on ramasse à la cuillère, puis on prend immédiatement la forme de la cuillère dans laquelle on se trouve. Ça, c'est l'abandon psychologique. L'abandon psychologique, c'est de ne pas avoir de vertèbre. Et de ne pas avoir de vertèbre, c'est manquer des racines. Alors, il y a le groupe ici. Il y a les deux, hein. Il y a la balance des deux. Si on pouvait avoir un appareil particulier, je mesurerais le potentiel de concupiscible et d'iracible de chacun d'entre vous. Alors je mettrais le concupiscible de ce côté-là et l'iracible de l'autre côté, et puis on verrait comme ça, ce serait très intéressant ça. Mais on ne peut pas mesurer ça, impossible. Mais chacun d'entre nous, nous savons très bien qu'il y a un capital, une capacité de concupiscence, du concupiscible. Et puis, une capacité d'irascible. Quand nous sommes bien quelqu'un, nous savons très bien ce qu'il faut dire pour immédiatement le piquer et le voir en colère. Immédiatement. Il ne faut pas faire ça méchamment. Hein, parce que ça fait... Mais entre frères et sœurs, vous savez bien, on devine vite ça. Et quand on n'est pas très attentif, on pique son frère immédiatement, ou sa sœur, immédiatement, ça tombe. C'est l'irascible. L'irascible, bien le concupiscible, c'est justement de présenter ce qui est possible. Alors, il y a l'amour, le désir, la jouissance. À l'égard du bien sensible, le bien qui nous attire, le bien délectable, le bien qui nous attire. Alors, pensez à n'importe quel bien sensible, chacun d'entre nous, un exemple en particulier, le chocolat, le gâteau, tout ce qui vient. L'oreiller, pour certains, c'est l'oreiller. Ils ont un tel amour de dormir. Un tel amour. Alors c'est le tout de la journée qu'ils ont été dans le désir de l'oreiller. Et puis la jouissance. Surtout pas le business. C'est vrai, il y a des gens comme ça. Bon, alors, le bien sensible va impliquer en opposé le mal sensible. Ça, c'est très important de voir que lorsqu'il s'agit du bien sensible, il n'y a jamais un bien sensible à l'état pur. Donc tout bien sensible va impliquer le revers de la médaille, qui est le mal sensible. C'est ce qui fait dire au psychologue que le bien est toujours ambivalent. C'est très juste au niveau de la passion. C'est pas juste au niveau du bien spirituel, comme nous verrons. Mais au niveau de la passion, c'est vrai. Le bien sensible n'est jamais à l'état pur. Il n'y a pas de bien sensible absolu. Donc le bien sensible implique toujours un mal sensible. Ce qui explique comment au niveau passion, on peut très bien passer de l'amour à la haine. Toute haine présuppose un amour. Tout amour ne présuppose pas la haine. Ça c'est très intéressant, ce serait très intéressant à montrer ça. Parce que beaucoup dirait non, non, non. Tout amour présuppose une haine. Non. L'amour est premier et la haine second. Et qu'est-ce que c'est? Comment la haine va naître, hein? Comment va partir la haine au niveau passion, hein? La haine passionnelle n'est pas mauvaise. Faisons attention. Il y a une haine qui est mauvaise, c'est de haïr les personnes. Mais haïr le mal n'est pas mauvais, et le mal sensible. Le mal sensible qui me fait mal. Je ne peux pas l'aimer, le mal sensible. Comment voulez-vous l'aimer? Ce n'est pas vertueux de l'aimer. On doit aimer nos ennemis, parce que ce sont des personnes. On ne peut pas aimer l'ennemi comme ennemi. Ce serait du sadisme. Ce n'est pas bon. Il faut quand même appeler les choses par leur nom. Et donc le mal sensible, il est haïssable. Et il y a une haine vis-à-vis du mal sensible. Alors les deux, amour et haine, se tiennent. Et alors, ensuite, vous avez la fuite, la passion de fuite. Alors comprenons bien, la passion de fuite, ce n'est pas le petit guillemot qui prend la fuite. Hein. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la fuite dans l'ordre de l'exercice. C'est la fuite intérieure, la fuite affective. Je me mets le plus loin possible du mal. Le plus loin possible, je fuis du mal. Vous voyez ? La fuite affective, la fuite passionnelle, et puis la tristesse. Lorsque le mal est présent, je suis pris par la passion de tristesse, qui est l'inverse de la passion de jouissance. Exactement comme la fuite, c'est l'inverse du désir. Vous voyez, il y a un parallélisme très rigoureux entre l'amour, le désir, la jouissance. Les trois moments. Et vous voyez que ces trois moments se déterminent en fonction de ce qui détermine cet appétit. Le bien, il est aimé, c'est l'amour. Le bien absent, il est désiré. Le bien présent, je me repose et j'en jouis. Je le possède et j'en jouis. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, l'amour passionnel est toujours captatif. Comme on dit aujourd'hui, il est toujours captatif. On veut posséder le bien sensible. On veut l'avoir. Et l'avoir pour soi. Et pour soi seul. On veut l'avoir pour soi seul. Et on écarte les autres qui voudraient partager ce même bien. Ça, c'est instinctif, ce qui est évident. Parce que vous savez que si on est plusieurs à manger la tarte, on en mange en moins. On est plusieurs à manger le chocolat, on mange en moins. On devra diviser. Alors on n'a pas du tout ça, du point de vue de l'amour passionnel. On veut être le seul à posséder. Et ça explique des luttes, ça. On ne l'avoue pas quand on est une grande personne. Le gosse l'avoue. C'est évident, c'est là la simplicité du boss. Tandis que les autres ne l'avouent pas. Mais en réalité, c'est ça, c'est parce qu'on veut le posséder seul. Alors, la jouissance. Alors, à l'égard du mal, le mal réalise en nous la haine. La haine, c'est l'inverse de l'amour. L'amour connaturalise, la haine, on est le plus loin possible du mal. Et la haine, c'est une passion d'éloignement. D'aversion, de rejet. La haine fait rejeter. Je rejette le mal. Et je le rejette le plus loin possible. Mais rejet affectif. Il n'y a pas de haine sans amour. Il ne faut jamais l'oublier. Donc c'est ce rejet profond, alors que l'amour, c'est le code naturalisé au bien. Lorsque le mal est absent, lorsque je peux fuir le mal, c'est la fuite. Je le fuis. Je me mets le plus loin possible. Et lorsque le mal est présent et qu'il me blesse, c'est la tristesse. Un mal présent me blesse toujours. Alors, il y a une tristesse. Donc, voilà les six premières passions du monde physique. Dans l'irascible, il n'y a que cinq passions. Il y a 11 passions. Il y a 11 états affectifs passionnels. Notre psychisme implique 11 états passionnels. Et tous les romans consistent à jouer sur ces 11 états passionnels. ça qui est très extraordinaire. Tous les romans et la vie, sans aller jusque les romans, vous-même, vous vivez dans votre journée ces 11 états passionnels. Les jours où vous savez, les jours où il y a beaucoup de pluie, pas nécessairement, pas, mais quand il y a beaucoup de soleil, intérieur, vous savez, intérieur, vous vivez ces 11 états passionnels. Très, très curieux. Alors, lorsqu'il s'agit de l'iracide, vous regardez le bien ardu. Le bien ardu, c'est le bien difficile. C'est le bien qu'on aime de conquérir. C'est très curieux. Les personnes qui ont l'iracide très développée font que toujours, elles se mettent dans des états de lutte. Très curieux. Il y a des personnes qui engendrent la lutte. Je ne sais pas pourquoi. Qui engendrent la lutte. Dès qu'elles sont là, toujours, elles divisent. Alors qu'il y a des personnes, au contraire, qui engendrent l'unité, qui font la paix. Mais il y a des personnes qui engendrent la lutte. Pourquoi ? Pour qu'il y ait un bien difficile à conquérir. Parce qu'elles aiment le bien difficile. Alors, quand le bien difficile n'est pas là, on crée, imaginativement, on crée des situations impossibles, on crée des divisions. Vous avez tous vu ça, vous suivez le corps, vous verrez, quand vous êtes un peu attentif, vous aperçoit qu'il y a des personnes qui divisent pour le plaisir de diviser. Pour le plaisir de diviser, attention, ce n'est pas le plaisir de diviser, c'est pour le plaisir d'avoir un bien difficile à conquérir. Alors, on devient un héros. Comme ça, on se manifeste. Alors, le bien ardu va susciter en nous comme première préoccupation l'audace. Pour montrer que je suis audacieux. Alors, pour montrer que je suis audacieux, évidemment, il faut qu'il y ait un bien difficile, parce que s'il n'y a pas de bien difficile, il n'y a pas d'audace. Et l'audace va engendrer l'espoir. Parallèlement au bien difficile, il y a le mal difficile. Le mal difficile va engendrer la crainte et le désespoir. Et enfin, la colère qui va être le fruit des racines